affinités électives. Une émission proposée par Canal Academy.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Academy. Notre émission de ce jour va prendre la forme d'une énigme, ou plutôt de la résolution d'une énigme. Cette énigme, naît à la croisée de l'histoire de la musique et de l'histoire tout court, la grande histoire. Il s'agit du silence de Rossini, qui a compté de 1829, après la représentation de son opéra Guillaume Tell, cessera non de composer, mais de composer des opéras, qui étaient quand même sa spécialité. Comment expliquer ce silence, alors que le compositeur, alors établi à Paris, était au sommet de son art, de la maîtrise de son art, au sommet de la gloire également? Une attitude si étrange que même ses contemporains, s'étaient interrogés sur ses causes. C'est notamment le cas des contemporains, et pas des moindres. C'est le cas de Stendhal, de Balzac, de Dumas, et plus tard de Théophile Gautier. Chacun avanceront des hypothèses, mais c'est peu dire que le dossier n'était pas clos, pas verrouillé. C'est pourquoi nous allons aujourd'hui le rouvrir, et nous allons le faire avec quelqu'un qui est parfaitement fondé à le rouvrir, puisqu'il s'agit de Jean Tullard, qui vient de publier Rossini sous Napoléon aux éditions SPM. Je dis parfaitement qualifié, d'une part parce que bien entendu Jean Tullard en connaît quand même un morceau sur l'histoire napoléonienne et cette époque, mais également parce que c'est un grand amateur de Rossini, m'a-t-il dit en préparant cette émission. D'ailleurs, ma première question est totalement anecdotique, mais quel a été votre premier contact avec Rossini? Pourquoi écrire soudain sur Rossini?
Alors Rossini, c'est probablement le premier musicien que j'ai connu et que j'ai entendu. C'est à l'âge de 7 ans que, au cinéma Le Moderne, à Albi, je suis allé voir, emmené par ma grand-mère, Les Justiciers du Far West, un western de William Whitney, où le justicier masqué, le Lone Ranger, chevauchait avec son fidèle indien Tonto, chevauchait au son d'une musique qui revenait constamment en leitmotiv. Et j'ai demandé à ma grand-mère, institutrice, qu'est-ce que c'était que cette musique. Elle m'a dit, mais c'est l'ouverture de Guillaume Tell de Rossini. Elle n'en a pas ajouté plus, mais ma curiosité a été piquée. Je me suis précipité sur le Petit Larousse, ouvrage de chevet de mes grands-parents, et j'ai vu qu'il y avait un musicien qui s'appelait Rossini, et j'ai essayé, comme tous les enfants curieux, d'en savoir plus sur Rossini, et c'est ainsi que Rossini a été mon premier amour musical.
Grâce à son ouverture de Guillaume Tell, qui, lorsqu'elle est représentée, cette opéra est représentée pour la première fois, je crois, à Paris en 1829, fait également un grand effet.
Ah, la première de Guillaume Tell à l'Opéra de Paris a produit une impression considérable, car elle marquait une rupture avec le reste de l'œuvre de Guillaume Tell, de Rossini. Rossini était plutôt un compositeur d'opérette, j'aurais presque dire, d'opéra bouffa, léger, d'œuvres joyeuses, pittoresques, dont le symbole reste le Barbier de Séville. Grand morceau de musique, mais en même temps une folle gaieté. Et tout à coup, voilà que nous sommes en 1829, sur la scène de l'opéra, c'est un grand hymne à la liberté qui est entonné, notamment à l'acte 2, et c'est une tragédie qui exalte, au fond, les sentiments nationaux. Nous sommes en 1829, la révolution de 1830 est très proche, et donc l'effet est considérable sur le public.
Alors c'est un triomphe, et pourtant, lorsque le responsable des programmes du théâtre l'interroge « Quel sera maître votre prochain opéra ?», il répond « Il n'y en aura pas ».
Voilà. C'est une réponse que
silence.
Pratiquement on n'attend pas de la part d'un compositeur. Il est au sommet de sa gloire. Il est dans la force de l'âge. Il a déjà une œuvre immense derrière lui. Et il sait que c'est un travailleur acharné qui compose très vite, extraordinairement doué. Et voilà que tout à coup, il déclare qu'il ne fera plus d'œuvre après Guillaume Tell. C'est-à-dire qu'il ne composera plus d'opéra. Et effectivement, il va être silencieux. Il y aura une petite messe solennelle, il y aura le fameux Stabat Mater, mais le Stabat Mater ne sera vraiment joué qu'en 1840. Nous sommes là en 1829, et dans l'intervalle, il n'y a rien. Bien entendu, on reprend les œuvres de Rossini, le Barbier de Séville est repris, bien entendu, les autres œuvres aussi, mais il ne compose plus, il s'arrête. Et ça a été une stupéfaction, et il y a l'énigme du masque de fer, il y a l'énigme du chevalier d'Éon, il y a aussi l'énigme du silence de Rossini. Pourquoi s'arrête-t-il subitement en 1829 ?
D'autant que c'est visiblement une décision délibérée, mûrie, affichée, affirmée, et soudaine.
Et soudaine, et il s'en tient là. Alors évidemment, les contemporains se sont interrogés. C'était les plus qualifiés pour expliquer ce silence. Et ce qui est très frappant, c'est que les contemporains qui se sont interrogés sur ce silence, et que j'évoque donc dans mon livre « Rossini sous Napoléon », ce ne sont pas des inconnus. C'est tout de même Balzac, c'est Stendhal, c'est Alexandre Dumas, c'est ensuite Théophile Gautier, c'est-à-dire les romantiques. Les romantiques, Rossini n'est pas tout à fait dans la musique romantique. Il est déjà plus proche. Il est resté 18e, mais il a plein d'autres.
Sauf peut-être Guillaume Tell,
mais
justement.
Guillaume Tell, précisément, est romantique. Et c'est ce qui stupéfie les grands écrivains de ce temps. Alors, chacun a eu son interprétation. L'explication, la première de Balzac, c'est que, au fond, si Rossini ne compose plus, et c'est qu'il sent que les monarchies traditionnelles vont cesser d'exister. Je rappelle qu'avant Guillaume Tell, il avait composé le Voyage à Reims qui célébrait le sacre de Charles X. Donc, c'est un légitimiste, c'est un bourboniste. Et voilà qu'arrive la Révolution de 1830 qui porte au pouvoir la maison d'Orléans et qui porte au pouvoir la bourgeoisie. On peut se dire que Rossini avait quand même composé aussi pour une clientèle bourgeoise, mais au contraire, c'était peut-être même plutôt une clientèle bourgeoise. Mais il est lié à une conception aristocratique de son époque, et à partir du moment où c'en est fini, la Révolution de 1830 balaie un certain nombre de monarchies, balaie un certain nombre d'idées reçues, c'est le triomphe des idées libérales, et donc il s'arrête. Il s'arrête. C'est l'explication politique donnée par Balzac. Il est légitimiste et il
comme
ne peut
lui-même
pas admettre les Orléans. Mais alors vous voyez qu'il y a quand même une chose un petit peu bizarre dans l'explication de Balzac. C'est que Guillaume Tell, c'est quand même un opéra en faveur de la liberté. Donc qui annonce 1830. C'est pas lui qui va déclencher la révolution de 1830, ce sera un autre opéra, la Muette de Portici. C'est ce qui déclenchera en Belgique la révolution. Mais il n'en reste pas moins que c'est un hymne aux idées libérales. Donc, s'arrêter de composer parce que les idées libérales ont triomphé, peut-être. Mais enfin, cela paraît quand même surprenant, en tout cas pas par fidélité au régime de Charles X.
Alors, donc l'explication de Balzac.
L'explication de Balzac, qui, je vous rappelle, est lui-même légitimiste, il se projette lui-même. Il n'y a pas plus réactionnaire que Balzac. Donc, on peut
penser qu'il a voulu l'enrôler.
Il l'enrôle en quelque sorte dans le légitimisme. La deuxième explication, c'est celle d'Alexandre Dumas. Alexandre Dumas a été fasciné par Rossini et Alexandre Dumas est allé le voir plus tard à Bologne en lui apportant un livret d'opéra, qui sera finalement un livre, Les Mille et Un Fantômes. Et Alexandre Dumas va le voir, et il est reçu par Rossini. Alexandre Dumas est archi connu, puis il est mêlé à l'Italie, il parle italien. Et donc il est reçu par Rossini, qui lui parle français, avec un repas somptueux. Et à la fin de ce repas, eh bien, Alexandre Dumas dit à Rossini, mais pourquoi vous ne composez plus ? Et l'autre lui répond, mais mon tourne-d'eau, le fameux tourne-d'eau foie gras, vaut tous les opéras du monde. Cela signifie, d'après Alexandre Dumas, que Rossini mais la gastronomie au-dessus de l'opéra, qu'il s'adonne maintenant, car le repas qu'il sert Alexandre Dumas, peut-être Alexandre Dumas l'a peut-être arrangé un peu, je ne sais pas, mais enfin, parce qu'il ne faut jamais se fier à Alexandre Dumas, surtout dans ses mémoires, mais en tout cas, c'est un repas somptueux, et pour Alexandre Dumas, maintenant, Rossini est au sommet de sa gloire, il va profiter de la vie en épicurien, il va manger superbement, et tant pis pour la musique. Voilà la deuxième explication.
Et semble-t-il, si on en croit donc Dumas, Rossini lui-même dit « mais il n'y a qu'une explication, c'est que je suis paresseux ».
Voilà, c'est un paresseux à cause, alors qu'il n'a jamais été paresseux avant, et à cause de, il est paresseux à cause de la bonne chère, en quelque sorte. Alors qu'il a tout son talent, car quand Alexandre Dumas lui propose son livret, il dit « ah, c'est une excellente idée », il se met au piano et il compose carrément l'ouverture. Une ouverture qui s'annonçait géniale, comme Guillaume Tell. Et simplement, il ne note rien. Et le lendemain, il a tout oublié.
Il est passé à autre chose.
Il est passé à autre chose, c'est-à-dire à un autre repas. Donc, vous voyez que la gastronomie, bon, est-ce que véritablement ça peut expliquer Rossini ? Rossini n'est pas paresseux, puis ce n'est pas tout à coup que l'on découvre les charmes de la terrine milanaise, que l'on découvre les charmes du parmesan, que l'on découvre les charmes des pâtes. Et qu'on s'arrête de composer. Donc cette explication est également très difficile à accepter.
Il y en a une autre, c'est celle de Stendhal, mais qui est plus sévère, plus dure.
Alors Stendhal, c'est l'homme qui admire Rossini. Il a écrit une vie de Rossini qui est très utile, qui est très bien renseignée, et Stendhal va court partout voir les opéras de Rossini. Et Frédéric Vitou a même imaginé une fameuse rencontre entre Stendhal et Rossini à la frontière du royaume de Naples, dans un très joli roman. Et donc, il y a entre Stendhal et Rossini des affinités. L'explication de Stendhal, c'est que Rossini a gagné tellement d'argent qu'il n'a plus besoin de composer. Il n'a plus besoin de composer, c'est véritablement maintenant inutile, il est trop riche. Effectivement, on en est à la centième du Barbier de Séville, donc l'argent rentre, à quoi bon continuer ? C'est une explication évidemment moins séduisante que celle de Balzac à la politique, c'est moins terre-à-terre que celle de Dumas à la bouffe, mais c'est peut-être encore plus dévalorisant pour Rossini, Stendhal s'en rend-il compte, alors qu'il l'admire. Non, en tout cas, voilà une troisième explication du silence de Rossini.
Oui, puis Stendhal semble laisser entendre aussi que Rossini sera un peu dépassé par l'évolution de la musique de son temps,
oui.
Qu'il a du mal à se renouveler, et que c'est un peu en bout d'inspiration.
On va maintenant vers une autre musique. Mais enfin, il le dit avec nuance, dans la mesure où il aime énormément Rossini, et qu'au fond, il reste attaché à Rossini, et que les nouveaux venus, comme Meyerbeer, le séduisent infiniment moins.
Et de surcroît, avec ce Guillaume Tell, il prouve sa capacité à se renouveler.
Oui.
De façon incroyable.
Oui, oui. Donc,
ça ne tient pas non plus.
Donc, l'explication ne tient pas. Alors, il y a une autre explication, puisque tous les romantiques défilent. Il n'y manque que le père Hugo. Mais bon, Hugo ne fait pas très... Enfin, sa Lucrèce Borgia sera adaptée par Donizetti, Hernani par Verdi. Hugo ne s'est pas intéressé apparemment à Rossini. Et celui qui s'est intéressé, c'est Théophile Gautier. Théophile Gautier, c'est l'esthète admirable. Et pour Théophile Gautier, c'est qu'au fond, il y aurait eu une cassure. Rossini aurait été déçu par quelque chose au moment de la représentation de Guillaume Tell. Quoi ? Et on ne dit pas, mais quelque chose se serait brisé chez Rossini. Là, l'hypothèse est beaucoup plus séduisante, mais elle ne fournit pas d'explication. Pourquoi ? Le succès a été évident. Berlioz délire, précisément. On ne sait pas s'il était dans la salle le jour de la première ou après, mais Berlioz délire, la critique est enthousiaste. Donc, qu'est-ce qui peut avoir blessé Rossini ? On ne sait pas. En tout cas...
Berlioz qui n'était pas du genre à aimer le premier Rossini, si j'ai compris.
Non,
donc c'est un
tout.
Basculement. Il
oui,
se rallie.
C'est le triomphe du romantisme avec Guillaume Tell. C'est un nouveau départ. Alors, voilà les explications qui ont été données. D'autres pourraient l'être. Et bien entendu, j'en propose une autre qui vaut ce qu'elle vaut et qui serait l'explication par le père de Rossini et par le fait que, finalement, Guillaume Tell, dans son œuvre, c'est l'apothéose, c'est le testament. Il y a des gens qui rédigent leur testament à 30 ans. Bon, il y en a qui le rédigent à 40 ans. Guillaume Tell, c'est le testament de Rossini. Et pourquoi est-ce le testament de Rossini? Eh bien, c'est parce que lorsque vous étudiez la période 1800-1814, vous vous apercevez que Rossini a beaucoup composé, mais qu'il est passé complètement à côté, alors qu'il est italien, de l'épopée italienne de Napoléon. Car, bon, il naît en 1792, donc il est très jeune lors de la première campagne d'Italie, mais il faut comprendre ce qu'a été pour les Italiens cette première campagne d'Italie. Bonaparte apparaît comme le sauveur, le libérateur. Il apparaît comme déjà le César Borgia, le prince de Machiavel, celui qui apporte des idées nouvelles en Italie et qui va la secouer du joug de l'étranger, c'est-à-dire de l'Autrichien. Et le père de Rossini, un modeste artisan, enfin qui n'est pas un modeste musicien aussi, mais bon, qui n'est pas véritablement dans l'élite italienne, est enthousiasmé par Bonaparte. Et il va participer, avec l'invasion donc de l'Italie par les armées républicaines, il va participer, puisqu'il est né dans, Rossini est né dans les États pontificaux, et il va participer à cette transformation de Rome en république romaine par les troupes françaises. Et le père de Rossini va être un patriote, un républicain face à l'oppression pontificale. Donc il est véritablement dans la mouvance de l'épopée de Bonaparte. Et puis ensuite, il va y avoir une deuxième apparition de cette fois donc toujours de Bonaparte, mais cette fois comme premier consul et à son compte en Italie avec Marengo. Et d'ailleurs on peut s'étonner, entre parenthèses, que Rossini n'ait pas été intéressé par cette victoire de Marengo, car flûte, qu'est-ce qu'elle nous a donné? Le poulet Marengo et le veau Marengo. Et je ne sais pas vu dans les menus de Rossini que l'on ait servi du veau Marengo. D'ailleurs, ce n'était pas la cuisine qu'il aimait. Le veau Marengo est un peu lourd. Quant au poulet Marengo, il est un peu indigent puisqu'il est imaginé sur un champ de bataille. Bref, le père de Rossini, à nouveau, a été enthousiasmé, mais Rossini, là maintenant, il a grandi. Et puis, il y a toutes les transformations de l'Italie. Ce que les Italiens rêvaient, c'était l'unification de l'Italie. C'est le thème du prince de Machiavel. Or, cette unification est en train de se réaliser. Au nord, vous avez le royaume d'Italie, dont Napoléon est le roi, saignant la couronne de fer. La couronne de fer, ce symbole qui ressurgit dans les mythes italiens, quelque chose de très fort. Et il est donc roi d'Italie, laissant à son beau-fils Eugène la vice-royauté. Au sud, vous avez d'abord Joseph, bon d'accord, Joseph, mais Murat ensuite, quel panache, quel personnage étonnant, qui est roi de Naples. Et puis au milieu, tout est simplifié. La République de Venise a disparu, elle est englobée dans le royaume d'Italie, la République de Gênes a disparu. Florence est maintenant département français, comme Gênes et comme Rome va le devenir à son tour. Bref, l'unité italienne est quasiment faite, ce que souhaitaient les patriotes. Ces événements, ils sont considérables. Et vous cherchez dans l'œuvre de Rossini quand ce ne serait qu'une cantate à...
Qui fasse écho à tout cela ?
Aucun écho, et il traverse tous les changements de régime sans jamais, et ça vient très fort. Au début, on peut comprendre, il est jeune, il cherche une carrière, il n'a pas encore mûri, mais en 1814, les transformations de l'Italie deviennent énormes. C'est le retour de l'Autriche au nord, c'est Murat au sud, qui lance sa fameuse proclamation de Rimini, maintenant en 1815, sa proclamation de Rimini, italien, soulevez-vous, unissez-vous, et aucun écho.
Oui, pendant ce temps, il fait des choses du genre l'enlèvement au sérail.
Oui, il fait des voilà. Oui, mais il ne compose rien qui soit le reflet de cette époque. Mozart, on peut le dire, Mozart, la flûte enchantée, vous avez, dans la flûte enchantée, vous avez précisément les lumières, c'est-à-dire c'est une initiation maçonnique. Don Juan, c'est quand même le libertin, il y a un message très fort. Chez Rossini, il n'y a rien que...
Un peu d'orientalisme, c'est tout. Voilà.
Oui, d'orientalisme, génial. Mais bon, l'expédition d'Égypte est loin, on l'a complètement oublié. Donc, il n'y a aucun écho. Chez Donizetti, il y a la fille du tambour major. Il y a chez Cimarosa, qu'admire aussi Stendhal, Cimarosa s'est mêlé à ses affaires italiennes. Il a lancé des messages. Bon, lui, rien. Alors qu'il y a un mouvement, Leopardi, en Italie, il y a des... Bon, absolument rien. Et même... Il se fait embaucher à Naples au moment où Murat lance sa proclamation. On lui attribue, soit Frédéric Vitoux lui attribue une petite cantate qu'il aurait composée en l'honneur de Murat. On ne sait pas. Il a quelques ennuis d'ailleurs avec la police autrichienne parce que, comme il a composé tout le temps pendant la période dont le Nord, où Eugène était vice-roi d'Italie, et comme il a composé. Et que les autorités venaient assister à ces représentations, il devient suspect, comme un peu mutatis mutandis, entre 1940 et 1944, les acteurs qui ont joué devant un parterre allemand. Bon, et donc il devient un peu suspect de collaboration, mais il n'a jamais donné le moindre signe, n'a jamais proclamé, on ne l'a jamais entendu crier « Vive Napoléon !» Donc, voilà que, eh bien, on se trouve dans une... situation étonnante, c'est qu'il n'a jamais rien composé sur cette période. Et que ça continue après. Et voilà que tout à coup surgit Guillaume Tell. Voilà que surgit Guillaume Tell. Et dans Guillaume Tell, dans cette chevauchée...
Il faut peut-être d'ailleurs expliquer pour nos auditeurs...
Le thème de Guillaume Tell, c'est l'indépendance de la Suisse... face à la domination germanique, et Guillaume Tell est un héros, on ne sait pas très bien exactement ce qu'il était, c'est un héros plutôt légendaire, mais qui symbolise la liberté des peuples face à l'oppression des tyrans étrangers. Et Guillaume Tell est un personnage si populaire en France, au moment où Rossini compose cet opéra. C'est un personnage si populaire qu'une section révolutionnaire de Paris s'appelait la section Guillaume Tell. Donc, ça a une très grande résonance. Et donc, cet hymne à la liberté, cette chevauchée, parce que quand vous voyez Guillaume Tell, l'ouverture, le début, c'est assez suisse, c'est
C'est bucolique.
C'est bucolique. Et puis ensuite, tout à coup, il y a cette chevauchée. Et alors, il est permis de se demander si ce n'est pas là, si ce n'est pas là l'évocation de la chevauchée de Murat en 1814, puis à nouveau de celle de 1815, car il y a deux chevauchées de Murat. Et n'oubliez pas que Murat, en Italie, est extrêmement populaire. Sur la façade du palais de Naples, vous avez les quatre grands rois. Et vous y avez Murat. Et aujourd'hui encore, Murat, j'ai écrit un livre sur Murat qui a été traduit en italien et qui a eu un grand succès en Italie. Et Murat répond, il y a eu des films d'ailleurs, au temps du muet, sur Murat. Et donc cette ouverture de Guillaume Tell pourrait évoquer la chevauchée de Murat. Et au fond, cet hymne à la liberté, c'est au fond cette liberté qu'a porté les armées révolutionnaires. Donc... En 1829, après avoir composé beaucoup, gagné beaucoup d'argent, inventé le tourne-dos Rossini, Rossini livre là son testament. C'est-à-dire qu'il répond à l'attente de son père, au message qu'avait entendu son père, et donc il exalte à ce moment-là la liberté telle que l'avait rêvé son père dans les États romains, et il évoque la chevauchée de Murat. Et à partir de là, c'est son testament, c'est la clôture de son œuvre, il la clôture là avec ce chef-d'œuvre, qui n'est pas l'œuvre la plus populaire de Rossini, c'est pas celle qu'on donne le plus, évidemment par rapport au Barbier, mais il clôture là son œuvre, Et après, ben, il n'a plus qu'à se laisser vivre jusqu'au moment où, alors, il se met à composer de la musique religieuse, une petite messe, mais surtout le Stabat Mater, qui est peut-être son œuvre la plus belle, la plus étonnante, et qui tout à coup, ce Stabat Mater, après s'être réconcilié avec le Père, il se réconcilie avec Dieu. Car je vous rappelle que les acteurs, n'étaient pas pendant longtemps enterrés religieusement, qui rend encore un des drames pour une actrice sous la première restauration, dont on refusera les obsèques religieuses. Et donc, c'est Mlle Raincourt, si je me souviens bien. Et donc, là, il sent lui-même qu'il a péché, qu'il a incité à tous les péchés, la luxure avec le barbier de Séville, mais la gourmandise avec la gastronomie. Et donc, là, après s'être réconcilié avec son père et s'être réconcilié avec l'histoire de son temps, le Stabat Mater le réconcilie avec Dieu. Et donc, tout finit merveilleusement.
Donc, de Guillaume Tell jusqu'au Stabat Mater, il serait dans la rédemption.
Voilà. Voilà une explication qui, bien entendu, est une explication séduisante, je l'espère du moins pour nos auditeurs, mais la seule véritable explication, c'est celle que pourrait donner Rossini, mais il ne l'a jamais donnée. Merci Rossini, parce que ça a permis ainsi à Stendhal, à Balzac, à Théophile Gautier et à d'autres, et à moi-même en définitive, d'évoquer ainsi ce que fut le silence de Rossini.
Merci Jean Tullard. Merci effectivement à Rossini de nous permettre de retrouver ce siècle, son ébullition, les liens toujours nombreux entre l'opéra et n'en déplaise aux opéras légers de Rossini et l'histoire politique, car l'opéra c'était aussi un peu de la propagande à l'époque, n'est-ce pas, et de nous faire retrouver cet élan et toutes les émotions qui pouvaient les accompagner, émotions de toutes sortes. À travers votre ouvrage que j'incite nos auditeurs à se procurer, Rossini sous Napoléon par Jean Tullard aux éditions SPM, pour un beau voyage entre histoire politique, histoire militaire, histoire de la musique et même de la gastronomie. Merci beaucoup.